de l'Église catholique. En fait, derrière ma tête, il y avait une idée. Je me dis, si j'arrive à le convaincre, comme il prie dans le mouvement charismatique, lui à son tour parviendra à convaincre les autres. J'ai lui expliqué mon désir de servir Dieu, comme j'ai dit, pas en étant dans un couvent, mais en étant toujours dans le monde, en éduquant les enfants, mais en priant beaucoup. Mais mon cousin me dit que cela n'existait pas dans l'Église catholique. Il fallait nécessairement être dans un couvent. Et je commence à me rendre compte que je n'avais plus d'appui dans la famille. En outre, ce qui est très important, je faisais partie d'un mouvement des jeunes qu'on appelle le jeûne de la lumière, c'est-à-dire les Bilingues Mwinda, dans notre diocèse de Kinshasa. Et dans ces groupes, tout était déjà réglementé. Donc, à 14 ans, on faisait une retraite de 3 jours qui s'appelait Metanoia. Ça veut dire changer de comportement. À 15 ans, on faisait une retraite qui s'appelle Mort et Résurrection de 3 jours aussi. Ça veut dire qu'il faut mourir et naître avec le Christ. À 16-17 ans, on faisait une retraite qui s'appelle Maranatha. Et c'est cette retraite qui est fondamentale. Parce que pendant cette retraite, il faut faire un choix de vie et il faut faire un choix de profession. Faire un choix de profession, c'est-à-dire c'est partant des dons que Dieu t'a donnés. Tu vas voir si tu es plus appelé à enseigner, à soigner, tout ça. C'est vraiment un cheminement spirituel bien cadré, hein, créé par un évêque diocésain, mais alimenté encore par le Père Sketch de la Belgique. Donc c'était vraiment très solide. Et en sortant de cette retraite, tu devais savoir ce que tu allais devenir. Ou un prêtre, ou religieux, parce qu'il y avait prêtre diocésain, ou religieux, prêtre dans un couvent, ou par contre si tu étais une femme, ou tu t'es mariée, ou tu avais 3 voies, tu devenais religieuse diocésaine si tu veux être consacrée, tu devenais religieuse missionnaire, c'est comme ça on les appelle dans mon pays, ou tu partais au Carmel. Donc en dehors de ces schémas-là, il n'y avait pas d'autres voies. Alors, on entendait parler de dames que nous appelons des demoiselles consacrées, qui travaillaient dans une très grande école, qu'on appelle l'école Motema-Pico. Mais c'était, on nous expliquait, non, cette forme de vie-là n'existait pas ici, c'est très compliqué, c'est en Europe. Il n'y en avait que 2, hein, jusqu'à là dans les diocèses. Donc, on ne pouvait même pas penser y aller. Or, c'était là où s'est passée la vie séculière. Mais nous, on nous disait que non, pas là, c'est compliqué. Alors, à 18-19 ans, on faisait alors une retraite qui s'appelle retraite mission. Parce qu'avec Maranatha, tu as déjà choisi. La retraite mission, tu viens simplement confirmer ce que tu as choisi et tu te prépares comment tu vas aller vivre dans les futurs. Donc, c'était bien cadré ces mouvements-là. Et ce qui fait que moi, avec mon choix qui n'était pas très clair, c'était vite réglé. Alors, tout le monde me disait, bon oui, il faut aller dans une congrégation diocésaine, parce que là au moins, tu seras avec les jeunes, là au moins, tu seras sur place, comme tu ne vais pas aller tourner le monde et voyager. Alors, choix à moitié réalisé, car je suis effectivement partie dans une congrégation diocésaine, et ce qui était bien dans la congrégation diocésaine, on m'a laissé 10 ans à travailler avec les jeunes. Donc, selon la retraite Metanoia, comme j'avais bien discerné que je voulais travailler avec les jeunes et qu'on me laisse avec les jeunes, donc ça allait très bien. Donc, je travaillais comme enseignante à l'école, j'ai donné des cours de philosophie et logique, des cours de sociologie africaine, des cours des religions. Je travaillais dans les écoles catholiques. Et après, j'étais directrice d'internat, directrice des études ou conseillère pédagogique. Et puis après, je faisais un travail où il fallait faire des constructions des écoles, tout ça. Et donc, tout allait bien. Mais quand j'arrive vers la fin, 7 ans, 8 ans après, je commençais un peu à hésiter. Ces désirs-là commençaient à renaître encore en moi. Alors quand j'approchais vers les années de vie perpétuelle, j'ai dit non, je vais partir étudier. Bon, c'était un peu bizarre. On m'a dit, oui, tu vas étudier. On m'a permis de faire 2 ans des études post-universitaires en économie et développement. Et pendant ces temps, je disais à ma mère, maman, je vois que c'est pas là, ce n'est pas ça, je pense que je me suis trompée. Ma mère me dit, c'est hors des questions, tu vas faire la honte de la famille, il faut que tu y restes. Bon, il fallait quand même rester. Je suis retournée à la maison pour les vacances et on me dit, ah oui, tu es admise au vie perpétuelle, il faut que tu partes. J'ai dit à maman, maman, c'est pas ça, maman a dit, tu y vas, hein, parce que c'est nous qui allons te déposer. Bon, bref, je suis partie. Je suis partie, j'étais enfermée pendant un an. Mais je faisais tout ce qu'on demandait, mais moi je pensais que c'était bien. Mais après, à la fin, on m'a dit, oh non, tu n'es pas admise au vœu perpétuel. Ben, je n'ai pas discuté, j'ai dit, bon merci, peut-être c'est le choix de respect. J'ai pris ma valise, je n'ai même pas discuté, Et puis j'ai dit, bon, je vais partir. Ça a étonné tout le monde parce que voilà, c'était la ronde de la famille et tout le monde se disait, mais comment tu vas faire? Tu vois, tu avais déjà cheminé. J'ai dit, non, 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 c'est bien, peut-être c'est le Seigneur. Ah ben, je suis sortie, je suis partie à la maison, tous les générales, tout le monde était fâché, il fallait retourner au couvent, savoir ce que j'avais fait. Ah ben, on est retourné, on a demandé, on m'a dit, ah ben non, on a vu que non. Ben moi, j'ai dit, mais ils ont vu que non. Et ça avançait, l'évêque du lieu m'a dit que non, il faut passer au tribunal ecclésiastique, peut-être que tu as raison sur la décision. J'ai dit, oh, non, 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 ça va, je vais discerner en étant dehors, je vais échanger un peu de pays. Ah mais c'est comme ça qu'en 2009, je me suis retrouvée en France. Je me suis retrouvée en France, j'avais une recommandation de l'évêque parce que entrer pour étudier, c'est un peu compliqué. Donc comme je faisais partie d'une commission théologique aussi, je me suis retrouvée en France. Et j'ai commencé à étudier au Sainte-Sèvre, je faisais une année prédoctorale et j'étudiais en même temps à Nanterre Paris 10. Donc là, je reprends mes notes. En 2009, j'ai immigré en France et j'ai repris des études en sciences de l'éducation à l'Université Paris, ouais, c'est Nanterre. Je me suis progressivement introduite dans l'univers culturel français, dans les milieux éducatifs, en travaillant pendant mes années d'études comme animatrice extrascolaire et périscolaire. Donc, je travaillais dans les centres de loisirs, je travaillais dans les écoles. Alors, je travaillais aussi comme directrice des centres de loisirs, comme responsable de la formation BAFA. Je travaillais avec l'UFCV. Et après, je travaillais aussi comme membre de l'aumônerie catholique à l'école et l'aumônerie publique. Après, j'ai appris qu'on cherchait des enseignants à Saint-Denis en Île-de-France. J'ai dit, pourquoi pas ne pas tenter l'expérience. Je commence à venir et je travaille à Saint-Denis. Et maintenant, je travaille à Gentilly, en classe de CE2. J'enseigne 2 jours. Et un jour, à Choisy-le-Roi, en petite section. Donc, Dieu me fait passer par plusieurs détours. À des formes plus ou moins séculières de la vie. Et puis après, à une forme séculière. Quand j'ai dit une forme plus ou moins séculière, c'est pourquoi? Parce que les congrégations diocésaines chez nous sont nées dans le mouvement de la théologie de l'inculturation et de la libération. Dans théologie de l'inculturation, nos évêques ont dit, il faut qu'on ait une vie consacrée africaine, avec des femmes africaines, capables de se prendre en charge, capables de montrer partout dans le monde entier que la vie consacrée peut s'enraciner sur les sols africains. Donc, dans ces mouvements-là, il y a eu beaucoup de congrégations diocésaines qui sont nées. En théologie de la libération, parce que dans ces mouvements-là, il fallait que la femme soit autonome, que la femme se libère, que la femme puisse étudier pour montrer aux autres femmes que la femme peut faire quelque chose. Là, on est dans un contexte culturel où la femme est reléguée au mariage, mettre au monde des enfants et ne doit pas trop s'engager dans les sociales. Donc là, donc toutes ces congrégations-là, diocésaines, sont un peu dans ces mouvements-là de la théologie de l'inculturation, de la théologie de la libération, plus précisément de la libération de la femme. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que ce sont des formes un peu séculières de vie, parce qu'elles sont vraiment engagées, les religieuses diocésaines. Elles travaillent un peu partout. Alors, j'ai été attirée par l'Institut séculier Notre-Dame du Travail. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc, quand je suis arrivée, je me suis dit, en fait, cette forme de vie-là qu'on me disait, ça ne peut se vivre qu'en Europe, voilà, j'y suis. Parce que je me rappelle bien ces demoiselles-là que je voyais à Montemampico, qui étaient européennes. J'ai dit, ici, je vais les trouver. Mais seulement, je ne sais pas comment elles s'appellent. Alors, je me rappelle que nous, on les appelait demoiselles consacrées. Donc, c'était simple, il fallait aller sur Internet, écrire demoiselle consacrée. Donc, j'ai fait 6 mois en train d'écrire demoiselle consacrée. Demoiselle consacrée, j'avais n'importe quelle page qui apparaissait. J'entrais dans tous les onglets, mais je ne voyais pas les instituts séculiers. Et un jour, par hasard, 6 mois après, je n'abdiquais pas. Je partais toujours, je cherchais. J'ai dit, ça doit exister. Parce qu'elles sont en Europe, elles sont venues de l'Europe. Et un jour, par hasard, je ne sais pas comment, c'est de l'étonne et l'esprit, je tombe sur les instituts séculiers. Alors, j'entre dans les sites et puis je commence à défiler les onglets. J'ai dit, voilà, j'ai un choix à faire. J'ai pris mon temps, j'ai défilé les onglets, j'ai monté, j'ai redescendu, c'était vraiment la joie pour moi. Alors, je me suis arrêtée sur Notre-Dame du Travail, par hasard aussi. Ce qui m'a attirée, c'était la phrase « Trouver Dieu en toute chose ». Alors j'ai dit « Voilà, j'y suis ». Mais j'ai dit, ben, est-ce que ça, c'est correct dans ma tête? Pourquoi ça résonne très fort? J'ai laissé d'abord 3 semaines, 1 mois, mûrir dans ma tête, trouver Dieu en toutes choses. Et après, j'ai dit, ben, je vais la réécrire. Bon, c'était marrant parce que je me disais, est-ce qu'elles existent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça? Bon, j'ai écrit. Il avait des adresses, j'ai écrit. Ben, il faut écrire à Nadège, je lui ai dit, Annette Godard, je vais arrêter New York, hein? 20 pas d'euros. Et Thérèse Goûter. Bon, j'ai écrit aux 4.
Eh ben.
J'ai dit, c'est sûr qu'il y a une quand même qui va avoir un message. Alors, il y a un message qui est revenu parce que c'était pas correct. Et puis après, j'ai dit, bon, d'accord, les 3 autres sont partis. Et à ma grande chasse, 3 jours après, j'ai reçu un message. Ben, on m'a dit, nous avons reçu votre message. Et voilà, on va envoyer quelqu'un vous rencontrer. Et voilà, on a envoyé Annette me rencontrer au centre Sèvres. Et ben, je me disais, ces jours-là, je me disais, mais comment je vais faire? Je me suis assise quelque part, j'attendais, elle est venue. J'ai dit, en fait, ce sont des vrais gens, des êtres réels. Bon, j'étais contente. Parce que tout le monde s'est moqué de ma démarche. Et j'ai vu Annette, et nous avons parlé avec Annette. J'ai posé plusieurs questions. J'ai vraiment posé de questions. Et après, elle m'a invitée, et je suis partie regarder une fois. Mais ce qui était très bien dans la démarche, elle était très objective. Elle m'a dit, il y a plusieurs instituts séculiers, il faut aussi que tu regardes et que tu saches et que tu connaisses aussi les autres instituts. Bon, voilà, donc j'ai regardé aussi, il y avait une rencontre de l'ex-ministre, je suis partie, j'ai regardé et j'ai vu, j'ai continué à regarder, j'ai lu les brochures et tout ça. Donc j'ai dit, bon, voilà, quelques temps après, j'ai demandé la formation. Alors, c'est ainsi que j'ai connu le monde de Notre-Dame du Travail. Progressivement, j'ai senti beaucoup de joie et beaucoup de paix. Les choses, certes, n'ont pas été faciles pour moi. Ayant immigré en 2009, j'ai pris contact avec l'Institut Notre-Dame, comme j'ai dit, en 2011. J'ai fait en même temps un parcours d'immigration avec un cheminement en formation initiale en institut séculier. Mais cette coïncidence était aussi très positive. J'ai compris que la vie en institut séculier se vit au cœur du monde avec la réalité du monde. C'est-à-dire, pour mon cas, avec la quête d'une stabilisation de la professionnalisation pour pouvoir prendre en main mon existence en France. Dans mon cheminement, la Vierge Marie est pour moi modèle. Souvent, je lui dis, Vierge Marie, rappelle-toi de toutes tes routes d'exil. Rappelle-toi que tu étais aussi immigrée comme moi en Égypte. La poésie de Thérèse de Lisieux, Pourquoi je t'aime au mari, me console beaucoup. À travers cette poésie, je sens la Vierge Marie si proche de moi, une consacrée dans la vie de tous les jours. Alors, pour conclure, je vais dire ceci. Il y a toutefois une synthèse à faire. Une synthèse entre l'appel à la consécration séculière et ma culture africaine. Cet écho si fort en moi est apparu aussi chez les autres africaines que j'ai rencontrées à Rome au colloque de la vie consacrée. Les mots utilisés et les réalités n'ont pas toujours la même connotation et la même compréhension pour nous les Africaines. Qu'est-ce que signifie pour moi, femme africaine, l'autonomie dont on parle souvent dans la vie séculière? Comment être autonome dans une culture où résonne en moi les devoirs des communions, des partages et des solidarités, un devoir qui pour moi vient de tout mon être? Donc là, il y a une synthèse à faire. Alors, comment faire accepter aux autres Africains qui sont ici ou qui sont en Afrique le fait de vivre seuls sans que cela n'apparaisse pour mes frères et sœurs africains qui sont en France, qu'on m'énaisse, comme on me dit souvent, dans bourgeoisement ou dès l'égoïsme, sachant qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre avec toi, mais tu préfères vivre seul. Et pour ceux qui sont restés en Afrique, cela peut paraître comme un choix de vie libertaire. Pourquoi tu vis seul? Pour que les gens ne se mêlent pas de tes affaires, pour qu'on ne sache pas ce que tu fais. Donc là aussi, il y a une synthèse à faire. Je ne mentionne que ces 2 points-là. Mais par contre, il y a aussi des mots et des réalités de la consécration séculière qui résonnent très très bien dans la culture africaine. Comme par exemple, engagement dans le monde, une spiritualité du travail, et particulièrement la prière de Notre-Dame du Travail. engagement dans le monde, parce que quand j'explique aux gens que oui, je suis dans la vie consacrée, séculière, et je leur donne par exemple quelques points que j'ai fait en dehors de mon travail de tous les jours, j'ai dit, j'avais l'habitude dans une école où j'étais à Orléans, quand il y a des enfants qui arrivent, des enfants en situation d'immigration qui ne savent pas parler français, moi je partais chez eux, je leur donnais des cours gratuitement. Et là aussi, je continue quand même à donner des cours à certains enfants à la maison et je les fais de manière bénévole. Parce que je me dis, je comprends bien ce que comprennent ces enfants, et je comprends bien ce que comprennent leurs familles, donc j'essaie un peu de passer au culturel. Mais là, à ce moment-là, ça plaît aussi aux Africains, cet engagement dans le monde. Alors, la prière de Notre-Dame du Travail a un très bel écho, et je ne comprends pas pourquoi. On me demande pourquoi, mais pourquoi vous ne vulgarisez pas cette prière ? Dans ces éléments que je cite là, rien que deux, hein, engagement dans le monde et prière de Notre-Dame du Travail qui résonne bien pour les personnes d'origine africaine, c'est tout à fait normal, c'est parce que nous sommes formés dans une dimension où l'Église doit être missionnaire, où les laïcs doivent aller vers les gens et faire des choses au nom de Dieu, au nom de l'Évangile, ça parle beaucoup dans ces contextes-là. Donc une personne qui ira au nom de Dieu, ben ça interroge, surtout envers le plus pauvre et le plus fragile. Pour finir, je vais dire que Dieu est grand et l'appel de Dieu transcende toutes les différences culturelles. Mon cheminement en Institut Séculier Notre-Dame du Travail me pose parfois question. Je me dis, ben, est-ce que je suis blanche, est-ce que je suis noire, est-ce que je suis européenne, est-ce que je suis africaine? Car je comprends bien tout ce qu'on dit. Et je m'entends bien avec tout le monde. Je pense être mariée. Donc, je me dis, mais comme moi j'arrive, peut-être aussi que les autres arriveront. Mais il y a aussi l'Esprit de Dieu qui intervient. Il y a aussi cet effort de compréhension, de comprendre l'autre qui entre en ligne de compte. Je n'hésite pas de poser les questions. Quand je ne comprends pas, je pose les questions à Annette. Je pose les questions parce que c'était mon accompagnatrice. Je lui dis, ça veut dire quoi ? Donc avec elle, nous avons réélu les statuts de Notre-Dame du Travail parce que je voulais comprendre phrase par phrase et lui dire comment ça résonne en moi. Et c'est là où j'ai dit que Dieu parvient quand même à transcender, disons l'appel de Dieu arrive à transcender les différences culturelles. Je vous remercie.
Alors Jean-Louis, c'est pas la peine de te cacher derrière là-bas, tu viens. Jean-Louis Corteau, Institut masculin du cœur de Jésus, qui va à son tour nous donner son témoignage sur cet appel. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour, excusez-moi, je suis en retard. Je suis en train de déménager, ce qui est un peu compliqué. Pour quelqu'un comme moi, c'est très compliqué. Voilà. Je regarde l'heure. On a un quart d'heure à peu près. D'accord. Bonjour à tous. Je vais vous proposer d'évoquer avec vous le parcours de mon appel en trois parties, si vous voulez bien. Je dirais une première partie, 1973 à 1991. Et j'ai intitulé cette partie « Devenir ami avec Jésus et enfant de Dieu ». Je suis né dans une famille qui avait des origines catholiques, mais dont les dernières personnes n'étaient pas spécialement pratiquantes. Donc je n'ai pas eu d'instruction religieuse. Il y avait tout de même quelques symboles religieux, ici et là, des grandes-tantes qui disaient leur chapelet ou des choses comme ça. Et quelques éléments qui m'ont marqué. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours eu beaucoup de mal à passer devant une église sans m'arrêter dedans. J'ai toujours aimé être dans une église et j'ai toujours eu l'impression que j'y étais chez moi. Quand j'étais petit, des fois on lisait par exemple des livres de la comtesse de Ségur, c'était l'époque, où on voyait les petits enfants qui faisaient leurs prières, et puis les mamans qui disaient « Est-ce que tu as dit ta prière avec le petit Jésus, etc. » Et moi je me disais « Comme c'est beau !» Dans ma famille, il n'y avait pas de mariage à l'église parce que les jeunes générations ne se mariaient pas à l'église, mais il y avait quand même des enterrements à l'église. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris dans les enterrements. Et en juillet 73, il s'est passé quelque chose d'important. L'école de Jérusalem a sorti une nouvelle version de la Bible de Jérusalem. On en a beaucoup parlé à la radio, à la télévision, etc. Et ma mère a décidé qu'il fallait qu'il y ait une Bible à la maison. Alors elle a donc été prendre conseil auprès d'un bon libraire qui lui a conseillé cette nouvelle édition de la Bible. Je dois dire que je ne me suis pas lancé tout de suite dans sa lecture, mais ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, j'ai regardé. Et à cette occasion, j'ai appris dans des discussions familiales que mes deux parents avaient été baptisés, ce que je ne savais pas. En 1980, j'ai intégré une école d'ingénieurs à Marseille. Et il se trouve qu'à l'internat, en première année, il y avait des gens qui étaient très, très croyants et qui ont créé un groupe de chrétiens et qui m'ont invité. Alors moi, je découvrais beaucoup. Et c'est là que j'ai entendu vraiment parler de Jésus. Et j'ai compris, c'était une découverte et une évidence. Jésus, si tu veux l'accueillir, c'est ton ami pour la vie. Bon, les choses ont maturé, lentement. Et puis, je suis remonté à Paris, j'ai commencé à travailler. Mais j'y pensais toujours, j'en ai parlé avec un ami prêtre, un jeune de mon école qui était devenu prêtre. Et je lui ai dit, tu sais, je voudrais bien continuer, mais je ne me sentais pas vraiment capable d'aller comme ça à l'accueil d'une église. Et alors lui m'a donné les coordonnées d'un prêtre dans mon quartier, il m'a rassuré, il m'a expliqué, et du coup j'ai entamé un parcours de catéchuménat. Et il y a eu notamment une belle récollection à Jouarre, pendant laquelle j'ai vraiment senti un appel très fort à être en proximité avec le Seigneur. Et j'ai reçu les sacrements, l'initiation chrétienne. Alors après, j'ai entamé, c'est la deuxième partie, 1991, puisque j'ai été baptisé en 91, à Bac, à 31 ans. Jusqu'à 1999. Donc voilà, 1991-1999. On m'a proposé tout de suite des responsabilités dans l'église. J'ai participé à mon tour à l'animation de l'équipe catéchuménale. On m'a appelé au conseil pastoral de ma paroisse. Et chose extraordinaire, il y avait à l'époque une initiative de Mgr Lustiger qui s'appelait la marche de l'évangile dans le diocèse de Paris. Et assez curieusement, je ne sais pas trop pourquoi, mais finalement c'est moi qui étais désigné par le conseil pastoral pour représenter la paroisse. Et ça a été une année extraordinaire où j'ai eu, parce qu'il y avait beaucoup de présence de Mgr Lustiger et aussi de Mgr Soubrier qui travaillait dessus, et j'ai eu des enseignements, des paroles fortes qui m'ont laissé entendre que il y avait certainement là des choses à creuser encore dans mon parcours. Je crois que j'ai compris là que le fait d'être baptisé, confirmé, au fond, n'était qu'une étape, n'était qu'un socle. J'ai suivi beaucoup de cours à l'école cathédrale, qui était une initiative extraordinaire fondée par Mgr Lustiger et qui a rendu des grands services dans ma capacité à comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. En février 97, mon curé de paroisse a trouvé que j'étais un petit peu trop isolé quand même, surtout dans le 20e arrondissement à Paris. Il n'y a pas beaucoup de groupes chrétiens, de choses comme ça. Et il m'a un petit peu forcé la main pour rentrer au mouvement chrétien des cadres, le MCC. Alors j'ai fait un beau parcours, j'ai appris la spiritualité ignatienne, j'ai fréquenté des jésuites, j'avais jamais imaginé que je pourrais fréquenter des jésuites. Voilà, et j'ai fait notamment une belle université d'été du MCC sur le thème engagement et liberté. Et ça a été le point de départ de ma recherche de vocation un peu spirituelle, parce que on a parlé du célibat, des fruits du célibat. Moi, je commençais déjà à vieillir un peu. Je me rendais compte que les circonstances faisaient que j'étais célibataire. Et j'ai essayé d'orienter un peu ma prière dans cette direction, pour écouter un peu ce que le Seigneur pouvait me dire. Alors on m'a suggéré de faire une retraite de 10 jours, selon les exercices d'Ignace de Loyola, et on m'a envoyé pour faire ça à la Villa Morez, où c'est le père Jean Laplace qui prêchait la retraite. Et moi, j'avais jamais entendu parler des exercices spirituels. C'est peu de dire que ça a été une découverte extraordinaire. Et ça a beaucoup conforté le sentiment que j'étais appelé à quelque chose. Mais on savait pas encore très bien quoi. Donc, en 98, j'ai examiné plusieurs pistes. Enfin, j'ai été voir des gens. J'ai rencontré le responsable des vocations du diocèse de Paris, le responsable des vocations chez les jésuites. Il y a Monseigneur Paulien, qui était évêque auxiliaire, que je connaissais parce qu'il était justement affecté à l'est de Paris, qui m'avait éventuellement demandé si je sentais de devenir diacre, parce que le problème du diocèse de Paris, c'est qu'il y avait beaucoup de diacres dans l'ouest, mais très peu dans l'est. Bon, enfin, tout ça un peu maturé, réfléchi, j'ai eu des entretiens, et je dois dire que c'était pas si facile que ça. De décerner vraiment ce qu'était la volonté du Seigneur. C'était pas si facile que ça, donc on a cherché. Et du coup, j'ai pris un congé sabbatique d'un an, parce que on avait aussi quelques personnes avaient suggéré l'idée que peut-être j'étais un peu fatigué du travail. C'est vrai que j'avais un travail très prenant, et que peut-être c'est... Enfin, je cherchais aussi dans l'idée d'une vocation spirituelle le fait de finalement trouver une bonne raison de sortir de mon travail et de faire autre chose. Alors j'ai voulu voir un peu ça. Il y a une chose aussi qui m'a beaucoup marqué. À un moment, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais vous pensez à la prêtrise, au diaconat ou à je sais pas quoi, mais êtes-vous bien sûr que vous ne recherchez pas un statut ?» Et ça m'a beaucoup tourmenté comme question. Et je dirais que le témoignage public, enfin public, dans un public choisi naturellement, que je fais aujourd'hui, est un peu une sorte de thérapie, parce que du coup je me suis dit, c'est vrai, il faut, enfin ce serait... Et j'en ai eu une habitude, un peu de cela, qui est de ne jamais dire que je suis dans un institut séculier. Il y a des gens qui le disent, moi je ne le dis jamais à personne, donc quasiment personne ne le sait. Et j'ai trop peur de le dire, enfin pendant longtemps j'ai eu trop peur de le dire, parce que je me suis dit, tu cherches un affichage peut-être. Ça m'a marqué cette phrase. Alors finalement, une paroissienne qui m'avait accompagné au catéchuménat, qui me connaissait bien, je me suis ouvert un peu à elle de mon désarroi, parce que je ne trouvais pas tellement de voix. Et elle m'a dit, tu devrais aller voir le père Brard, qui était un ancien curé du 20e. Il est là, Jean-François ? Non ?
Il est reparti,
d'accord. Et elle m'a dit, tu sais, je sais pas très bien, mais je sais qu'il est dans un groupe où il y a aussi des laïcs. Alors du coup, je suis allé voir le père Brard, qui était à l'époque à Aubervilliers, et qui m'a dit qu'en effet, il faisait partie d'un groupe où il y avait des laïcs. Il m'a expliqué un tout petit peu ce que ça voulait dire, un institut séculier, et moi j'étais très surpris, parce que jamais je n'avais entendu parler d'une chose pareille. Et alors il m'a dit, il m'a donné rendez-vous avec le responsable général, qui à l'époque habitait aussi au Aubervilliers de l'institut. Et alors ça m'a un petit peu déçu, parce que j'étais un peu déçu qu'on me donne un rendez-vous avec un laïc, parce que j'avais vu tellement de prêtres dans mes entretiens que je me disais, des prêtres, moi j'ai toujours un grand respect pour les prêtres, je me disais si les prêtres sont pour arriver à m'aider à discerner, c'est sûrement pas un laïc qui va y arriver. Bon, et puis, je suis quand même allé, parce que le père Brard m'a dit d'aller le voir. J'ai dit, bon, ben, on va quand même faire ça. Et donc, je suis tombé sur un monsieur charmant qui m'a expliqué des choses que j'avais jamais imaginées. Alors, il y a une chose un peu amusante, c'est que... Enfin, amusante. Il se trouve qu'au MCC, j'avais eu une accompagnatrice d'équipe qui était une fille du cœur de Marie et qui avait un peu parlé de Pierre de Clorivière. Donc moi, je me suis présenté à Jean Lebert, puisque c'est lui dont il s'agit, en gros en disant, vous savez, moi je suis un chrétien récent, je connais pas grand-chose dans l'Église, enfin, etc. Et il a commencé à me parler de Pierre de Clorivière. Je lui ai dit, mais ça, je connais très bien Pierre de Clorivière. Donc il était un peu... Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui connaît Pierre de Clorivière? Et puis finalement, ben voilà, je suis allé dans des réunions de la famille Corunum, qui réunit différents instituts séculiers autour de la spiritualité du cœur de Jésus. J'ai fait des retraites, j'ai été intégré, et je dois dire que je me suis senti assez à l'aise. Et dans ma prière, ça allait bien, quoi. J'avais vraiment le sentiment que ça confortait et que cette voix était une voix qui convenait. Entre-temps, j'avais repris mon travail, hein, après mon année de congé sabbatique, et je dois dire que j'ai toujours considéré que si le Seigneur, au fond, avait voulu que je reprenne mon travail, c'est peut-être que quelque part, j'étais aussi un petit peu envoyé en apostolat sur le lieu du travail, vous voyez. Hein, il y a beaucoup de souffrance, hein, dans les entreprises. Et donc, voilà, je me sens bien aussi dans cela. Alors, j'ai suivi, évidemment, un parcours classique d'initiation. Je dois dire que j'ai beaucoup bénéficié de soutien de quelques prêtres, hein, qui m'ont aidé à vérifier, parce que moi, j'étais très étonné, quand même. Je trouvais que j'étais pas assez, entre guillemets, digne ou valable pour rentrer dans une disposition comme celle-ci. Je voyais rien ce que je pouvais avoir d'extraordinaire pour être appelé à quand même une vocation qui est si particulière. Et ça m'a beaucoup aidé que des prêtres, dans des entretiens, me disent « nous, nous confirmons, nous validons ». Enfin, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Bon, j'avais un accompagnateur spirituel qui m'aidait aussi, mais qui n'était pas lui-même dans un institut séculier, donc qui, au fond, ne savait pas tellement ce que c'était non plus. Donc... Et puis, je dois dire que il y a eu des années plus difficiles après, parce que on était assez peu nombreux, hein, dans mon institut à l'époque. Je dois dire que j'ai eu des années un peu difficiles. Vous voyez, j'ai fait un peu dans l'enthousiasme un engagement temporaire de 5 ans. Alors c'était pas formidable, hein, parce que il devait y avoir une grande cérémonie à Saint-Pierre, dans les locaux de l'église Saint-Pierre de Montrouge, et puis il y avait une inondation. Alors, comme il y a quelqu'un de la famille Corunum qui connaissait le directeur de la clinique Berlioz, on a fait ça dans une salle au sous-sol de la clinique Berlioz, et je dois dire que ça n'avait rien d'extraordinaire comme positionnement et comme lieu. Mais bon, voilà. Et après, ça a été un peu difficile. D'abord, ça a été difficile parce que le responsable de l'institut masculin est tombé malade et progressivement, n'a plus tellement été en capacité de gérer les choses. Et puis, je sais pas, j'ai eu du mal au bout de mes 5 ans temporaires. Et je sais pas, je sentais pas les choses. Donc, j'ai fait un renouvellement temporaire, hein, puisque les constitutions l'y autorisent. Et j'étais d'ailleurs assez, je me souviens, j'étais un peu effondré parce que on avait fait ça au Cénacle dans une récollection et il y avait des gens qui me félicitaient quand même d'avoir refait un engagement temporaire, même si je pense qu'ils étaient un peu déçus parce que beaucoup de gens pensaient que j'irais directement au perpétuel. Et moi, j'étais effondré parce que je me disais en moi-même, je vais pas être capable d'aller vers le perpétuel. Et c'est dommage parce que j'aime bien ces gens-là, mais je vais être obligé de les quitter. Donc c'était un peu surréaliste. Et puis finalement, bon, y a quelque chose qui s'est passé déjà qui m'a fait du bien, c'est qu'on a eu une assemblée générale avec des gens qui venaient de un peu du monde entier, des États-Unis, d'Asie, etc., d'autres régions d'Europe, de l'Institut masculin, et j'ai pu y participer. Et ça m'a beaucoup conforté, hein, de voir des personnes comme ça. Un peu du monde entier, enfin je sais pas, il y avait une espèce de communion qui s'était instaurée. Et puis, il y a un autre phénomène qui s'est passé, c'est que à partir de 2011, le Seigneur nous a envoyé des nouvelles demandes dans l'Institut. C'est-à-dire qu'on s'est mis à avoir des gens qui découvraient le site Internet. Pourtant, il n'est pas bien formidable, mais bon. Ils ont envoyé un message en disant « on voudrait bien en savoir plus ». Et on s'est rendu compte qu'il y avait finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin, on était assez estomaqués. Et on a créé un groupe, évidemment, un peu tardivement, on a mis le temps, mais moi, j'étais étonné, mais on a quand même réussi à créer un groupe en janvier 2013 pour accueillir justement toutes ces nouvelles personnes. Et c'était étonnant parce que on avait l'impression dans ce groupe que moi et le père Étienne Mayence, qui m'aidait beaucoup, 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 on accueillait et on formait un petit peu les nouveaux. Mais en fait, par leur questionnement, ils m'ont autant formé moi-même, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient l'air étonnés que je n'ai pas déjà fait un engagement perpétuel. Ça m'a interrogé. Et je crois qu'on s'est enseigné un peu les uns les autres. Et du coup, ça a redonné un peu de vigueur à ma prière, qui, je trouve, avait été un peu plus sèche ces temps-ci. Et je sais pas, ça m'a relancé, j'ai à nouveau eu l'impression que le Seigneur me parlait dans la prière, parce qu'il y a eu un peu des années de silence. Je me souviens, mon accompagnateur spirituel, je lui disais, vous savez mon père, en ce moment le Seigneur me cause pas beaucoup. Et cet homme, gentil comme tout, me disait, mais enfin qu'est-ce que tu racontes ? Déjà, il t'a appelé d'une famille qui était quand même pas pratiquante, il t'a amené dans un institut séculier, tu te rends compte, et bien, il va pas t'appeler tous les matins non plus, enfin voilà, quoi. L'appel, il est fait. Alors il me disait, de quoi te plains-tu ? Enfin voilà, c'est un peu étonnant. Et moi, je sais pas, j'avais une espèce d'idée d'absolutisme, je pensais que j'allais parler au Seigneur le matin, l'après-midi et le soir, et qu'il allait me répondre, voilà. Et bon, voilà, je sais pas, les choses se sont un peu formalisées. Et j'ai fait en août 2013 une très belle retraite avec la famille Corunum sur le thème finalement de la fidélité de Dieu à l'abbaye de Saint-Guénolé en Dévennec avec le père Goldenberg. Et je sais pas, j'ai compris pendant cette retraite que finalement, ce qu'on pouvait nous exercer comme fidélité par rapport à Dieu, c'était pas autre chose que de renvoyer quelque chose. Et le premier qui était fidèle, c'était Dieu, finalement. Et ça m'a, je sais pas, ça m'a fait du bien, ça m'a rassuré. Et ça m'a paru évident. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas encore fait mes vœux perpétuels? Donc voilà, on a organisé ça. Et finalement, je les ai faits en octobre 2013, c'est-à-dire à 7 ans et 11 mois. Et en principe, les constitutions donnent 8 ans, vous voyez, pour rester. Donc on peut vraiment dire que mais c'est pas glorieux, hein, j'ai vraiment attendu le dernier moment. Mais je l'ai fait, ce que je sentais, c'était de faire mes vœux perpétuels à un moment où toute ma personne serait complètement convaincue, vous voyez, où j'aurais la certitude. Et là, je l'ai eu. C'est une grâce. Voilà. Donc... vous voyez, donc, la dernière étape, hein, voilà, donc 1999 à 2013, quand même 14 ans de cheminement avec la famille Corunum. Donc je dois dire, puisque je suis ici à la CNISF, que j'ai eu l'occasion d'aller à des rencontres de la CNISF, notamment une fois, il y avait eu un week-end pour les moins de 55 ans, ça m'a beaucoup aidé. J'ai participé aussi un peu au groupe interséculier de la Seine-Saint-Denis, un moment, avant de partir en déplacement ailleurs. Ça m'a beaucoup aidé. Le témoignage des uns et des autres. Des fois, il y avait des gens qui me disaient un petit mot. Peut-être que pour eux, c'était un mot simple. Pour moi, c'était beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi les voies du Seigneur sont extraordinaires et l'inattendu de Dieu est grand. Ce qui m'a aussi aidé à faire mon engagement perpétuel... Mon accompagnateur spirituel m'avait demandé de revisiter ce que pouvaient être les fruits déjà de mes engagements, voyez. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai pris conscience à un moment, moi il y a un moment j'avais plein d'engagements dans l'église, maintenant j'en ai beaucoup moins, ben, je travaille beaucoup, c'est pas facile non plus. Et si vous voulez, j'avais un engagement au MCC, un engagement dans le catéchuménat, un engagement dans la paroisse de ceci ou de cela, j'ai pris conscience à un moment que mon engagement séculier, c'était pas le xième engagement, mais que c'était l'engagement socle sur lequel j'appuyais le reste. Et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc, vous voyez, c'est comme ça, quoi, que j'ai fait mon entrée dans un institut séculier. J'en suis encore tout étonné. Et j'en rends grâce. Et tout ce que je souhaite, c'est d'être au service, c'est tout. Merci. J'ai fait une école d'ingénieur. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans l'industrie du traitement de gaz. Et puis, bon, bah, les choses étant un peu plus difficiles dans l'industrie, je me suis reconverti dans une activité d'audit et de formation, par exemple sur le développement durable, sur le système de management de la qualité, par exemple, qui fait que je vais beaucoup dans des entreprises pour former ou pour auditer des organisations. Et c'est très intéressant parce que on touche un peu quelque chose, hein, de la nature humaine, hein. C'est pas forcément l'objet de l'audit ou de la formation, mais chemin faisant, on voit aussi un peu les parcours de vie. Et voilà, quoi, on rencontre les gens que le Seigneur aime.
Voilà, alors nous allons maintenant avoir le temps des carrefours. Donc vous avez tous repéré le nom de votre carrefour en bas à droite de votre pochette. Alors tout d'abord, avant que je vous dise dans quels endroits vous pouvez aller, je vous rappelle que ce carrefour consiste à reprendre en fait le questionnaire.